Direction la Florida, parce que notre collègue Jérémy Filosa est sur place pour suivre le camp d'entraînement de l'Impact de Montréal. Il est avec nous. Salut Jérémy.
Salut.
Bon, Jérémy, évidemment, on va se parler de l'Impact, mais juste avant, j'ai entendu cette nouvelle lors de l'émission des amateurs de sport. T'as jumelé l'utile à l'agréable parce que t'as fait, oui, l'Impact, ouais, mais t'as regardé également un peu du côté des Rays de Tampa Bay. Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé là.
Ben, en fait, ce qui se passait, c'est que mercredi matin, j'ai croisé à l'aéroport Russell Martin, premièrement, qui se retournait en Floride, ça c'est une autre histoire, mais j'ai croisé aussi William Yeager, qui est le bras droit de Steven Brockman et le principal responsable du dossier du baseball à Montréal. Là, j'ai dit, bon, ben tu t'en vas à Tampa, tu t'en vas sûrement voir les Rays, et il m'a dit, oui, en effet, et il a dit, je prends souvent ce vol-ci depuis quelques mois, donc il fait vraiment les allers-retours Montréal-Tampa pour discuter avec les gens des Rays de cette fameuse garde partagée. Et là, écoute, il m'a proposé une entrevue avec le président des Rays de Tampa Bay, Brian Hald, et j'ai dit oui, absolument. Et donc, je suis allé les rencontrer au Tropicana Field ce matin. Et lorsque je suis entré dans les bureaux de l'équipe, ben M. Yeager était installé à la table de conférence avec toutes les grandes têtes des Rays en grande discussion. Et je me suis dit, écoute, là, je veux dire, ce gars-là, là, il fait pas des allers-retours au Montréal, t'aimes pas pour le fun. Là. T'sais, il est ici, il est dans la salle de discussion avec eux, il négocie. Donc, il y a vraiment du concret qui se passe, là, ça c'est clair.
Écoute, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on t'a raconté?
Ben écoute, on m'a raconté toutes sortes de choses. On m'a parlé du plan. On veut travailler sur les deux fronts, Tampa et Montréal, avec la même idée de marketing, la même idée de comment vendre cette équipe-là, comment vendre aux spectateurs de deux marchés différents, une garde partagée. Écoute, ce que je vais te dire, c'est que ils m'ont convaincu d'une chose. Ils m'ont convaincu qu'ils vont vraiment essayer. Parce que moi, là, je n'étais vraiment pas convaincu de tout ça. Je me disais, écoute, c'est une façon de mettre de la pression sur la ville de Tampa pour sortir les Rays de là. Et éventuellement, c'est probablement ça qui va se passer. Mais cette garde partagée, là, ils vont l'essayer. J'ai posé plusieurs questions. J'ai soutiré deux extraits sonores là, qu'on va vous présenter. On va commencer avec M. Yeager, à qui j'ai posé plusieurs questions, bien sûr. Mais je lui ai dit, comment vous allez faire pour convaincre deux municipalités de construire des stades pour des équipes à temps partiel? Et c'est là qu'il m'a dit, ben oui, à temps partiel pour le baseball, mais pas complètement à temps partiel. On l'écoute.
Notre vision pour Montréal, c'est également une infrastructure qui va être en usage 12 mois par année.
Oui.
Même si on parle seulement de 40 à 50 matchs de baseball à Montréal, c'est certain que même si c'est un stade à ciel ouvert, ça va vraiment être quelque chose qu'on envisage pour un usage de 12 mois par année, soit pour une festival de Noël, soit pour une match à l'extérieur des Canadiens, peut-être même accueillir les autres équipes professionnelles.
Les Alouettes et l'Impact, peut-être s'il y a de l'intérêt ou quelque chose comme ça.
C'est certain qu'il va y avoir des conversations à cet égard.
Écoute,
mais j'entends ça. Je peux comprendre pour Montréal de vouloir joindre un 40-50 match de baseball majeur, mais je vois mal du côté de Tampa Bay de bâtir un nouveau stade pour avoir un club à temps partiel. Oui, tu as parlé peut-être des Roadies qui pourraient jouer au soccer, mais il me semble que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour un nouveau stade à Tampa.
Non, écoute, c'est sûr que les Rowdies, ils ont l'objectif d'entrer en MLS un jour, donc un peu comme l'Impact. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on va être capable de trouver des architectes suffisamment brillants pour être capable de construire des stades qui sont vraiment facilement ajustables pour les deux sports? Parce que présentement, il n'y a aucun stade en Amérique du Nord qui m'a prouvé qu'on est capable d'y jouer du soccer et du football, mais aussi du baseball. Un terrain de baseball, c'est fait en losange, des terrains de soccer, football, c'est fait en rectangle. Donc, il faut vraiment que l'architecture soit faite d'une façon ultra moderne pour qu'on puisse facilement ajuster les bancs pour passer d'un mode soccer ou un mode rectangulaire à un mode losange. Et ça, ben ça reste à être prouvé, à savoir si ça peut vraiment être fait. Lorsque j'ai posé la question à M. Brian Hald, président des Rays, comment on va pouvoir suivre cette équipe-là dans les médias et surtout, laquelle des deux villes acceptera ou obtiendra les matchs éliminatoires? On écoute la réponse.
But I would tell our fans two things. First, the playoffs are going to be split evenly. Promise. We're going to get that done. Secondly, we've got a pretty good track record here. We've won the fifth most games since 2008 in all of Major League Baseball. 90 wins, seven times. Dodgers, Yankees, Red Sox are the only teams to have done the same. We're going to win games. We're going to run our operation well. We've got the best farm system in the league with the lowest payroll as is. You're going to have, as most people consume our product, every single game on television and the radio, right? The
world, French and English?
French and English, absolutely.
Alors, écoute, il a dit, nous sommes une des équipes les plus performantes avec une masse salariale basse, un des meilleurs systèmes de recrutement. Il a dit, les matchs vont être diffusés en français et en anglais, tous les matchs de la saison. Et aussi, on vous promet que les matchs éliminatoires vont être partagés entre Tampa et Montréal.
Écoute, encore là, ça c'est parfait, mais la question qui revient, c'est que tu sais comment c'est important les matchs à domicile durant les matchs éliminatoires du baseball majeur. Là, je me dis, est-ce que tu es vraiment à domicile quand tu fais et Saint-Pete, et Tampa, et Montréal, puis après tu vas jouer contre l'équipe adverse? Encore là, il faut que l'association des joueurs embarque là-dedans, ça c'est ça.
Écoute,
c'est le problème numéro un, là.
Mon opinion, là, OK, l'association des joueurs ne sera pas d'accord. J'ai parlé justement à la conjointe de Russell Martin dans l'avion, en m'en allant en Floride, elle dit, écoute, je ferais jamais ça, moi, là. Là, t'es deux pédiatres, deux garderies, deux écoles pour les enfants. C'est extrêmement compliqué. Sauf que, si on est capable de convaincre l'association des joueurs que de procéder de cette façon-là garantira une expansion, parce que faut pas oublier, le but du baseball majeur, c'est quand même de passer à une expansion et de procéder à 32 équipes. Si on est capable de convaincre le baseball majeur que ce n'est que temporaire et que dans quelques années, on aura deux équipes de plus, donc 60 jobs de plus, peut-être qu'on va être prêt à faire ce sacrifice-là. Mais si c'est pour du long terme, je suis pas mal d'accord avec toi, ça risque d'être assez compliqué de les convaincre.
Et dernière chose, Jérémy, sur ce dossier-là, je me souviens, on avait une conversation, tu me disais, ouais, ben avant que tu partes pour la Floride, pour le camp de l'Impact, tu me dis, ouais, faudrait que je trouve du temps, il faut que je m'arrange pour aller voir du côté des Rays de Tampa Bay. Puis là, on arrive, écoute, on est organisé, il y a une rencontre, et là, c'est incroyable, quel timing incroyable. Puis eux, tu arrives avec des réponses, j'ai l'impression que tout semblait planifié quasiment.
Écoute, l'année dernière, lorsque je suis venu au camp de l'Impact de Montréal, j'ai eu vent que l'organisation des Rays, il y a quelqu'un du projet de baseball à Montréal qui les a informés qu'il y avait un journaliste de Montréal là-bas. Et finalement, ben, il ne s'est rien passé. On n'a pas vraiment travaillé là-dessus. Et là, je me suis fait dire, si tu retournes à Saint-Pete pour l'Impact, contacte-nous. Et donc, j'ai contacté les gens que je devais contacter, les gens qui m'avaient approché avec ça l'année dernière. Et comme de fait, écoute, je te conterai pas d'histoire, là. J'avais le sentiment, dans le bureau du président des Rays de Tampa Bay, qu'on avait le goût de passer le message, qu'on était excité par rapport à l'idée de la garde partagée, de s'en venir à Montréal. Donc, je pense qu'on voulait que cette information-là soit propagée. Et lundi, on va entendre l'entrevue complète avec M. William Yeager et aussi M. Brian Hall, président des Rays de Tampa. On va avoir une version audio pour la radio. On va même avoir une version vidéo pour notre page Facebook. Donc, les gens vont pouvoir me voir en direct dans le bureau du président là, en train de procéder à cette entrevue qui a duré un peu plus de 20 minutes. Là.
Et encore, et j'en rajoute, le groupe de Bronfman a été extrêmement silencieux depuis le début de cette démarche-là. Et là, il y a un de ses représentants qui est là-bas, qui lui est complètement ouvert, qui parle du stade, la possibilité d'avoir les Alouettes, d'avoir l'Impact dans le stade. Écoute, c'est comme... tout ça a semblé avancer à la vitesse grand V là, dans ce dossier-là.
Écoute, disons qu'il y a des gens avec qui j'ai des bonnes relations qui ont facilité... cette entrevue-là, et sans eux, ça n'aurait pas été possible. Mais écoute, monsieur Yeager est un homme qui collabore quand même beaucoup quand il le peut. Il y a des fois où il y a des dossiers où il ne peut pas vraiment commenter. Mais je pense qu'on a le goût de commencer à exciter les gens de Montréal par rapport à cette idée-là. Puis comme je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, ce qui a été le plus frappant, c'est de rentrer dans les bureaux et de voir monsieur Yeager autour de la table avec les têtes dirigeantes des Rays. Et quand il me dit qu'il fait des allers-retours Montréal-Tampa régulièrement, il est assis avec eux là dans les bureaux en train de parler de la future garde partagée, c'est parce que c'est du sérieux. Là. C'est parce que vraiment, on veut essayer de voir si ça peut fonctionner. Du côté de Tampa, le maire a déjà dit qu'il n'y avait aucun intérêt pour bâtir un stade pour une équipe à temps partiel. Et c'est pour ça que je pense qu'en bout de ligne, c'est un projet qui ne verra pas le jour. Ça, c'est mon opinion. Et qu'on va tout simplement déménager le club à Montréal ou qu'il va y avoir une expansion. Je ne pense pas, comme il y a 20 ans, je ne sais pas si les gens vont s'en souvenir, de la fameuse dissolution. On menaçait de dissoudre les Expos et les Twins. Et souvenez-vous, encore une fois, à l'époque, on était sorti public, le commissaire, pour dire que tous les propriétaires étaient d'accord à 100% pour la dissolution. Et ça avait inclus aussi les Blue Jays de Toronto et bien des partisans des Expos n'ont toujours pas pardonné aux propriétaires des Jays qui, à ce moment-là, avaient voté en faveur de la dissolution. Finalement, la dissolution n'a jamais eu lieu, mais on s'est servi de cet outil-là, de cette menace-là, pour faire déménager les Expos à Washington pour de bon. Là.
Bon, Jérémy, laissons le baseball de côté et parlons de l'Impact qui a disputé un match pré-saison qui était à huis clos. C'est le fun. Vous avez le droit quand même? Il me semblait que vous n'avez pas le droit d'en parler de ce match-là.
Écoute, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait une entente avec l'équipe. Ils nous ont permis de regarder le match. Et là, ils nous ont dit, vous n'avez pas le droit d'en parler. Bon, ben parfait. Ça faisait pas notre affaire, honnêtement. Mais bon, on n'avait pas le choix. C'était ça ou rien. Mais après le match, on nous a dit, vous allez avoir accès à l'entraîneur-chef, Thierry Henry. Et, ben, vous allez pouvoir lui poser les questions que vous voulez. Donc, on s'attendait à ce qu'il garde son jeu très caché. C'est-à-dire qu'il nous parle, qu'il nous donne des réponses, mais des réponses assez vague sur le match. Finalement, ben, Thierry Henry nous a donné pratiquement tous les détails de ce match-là durant son point de presse d'après-match. Je ne sais pas si on veut en écouter une petite portion, on pourrait le faire. Mais finalement, écoute, ça a été une défaite de 1-0. Ça n'a vraiment pas été un très grand match pour l'Impact de Montréal. Donc, ça fait 3 matchs consécutifs sans avoir marqué un but là, depuis, en fait, sans Nacho en uniforme, là, sans Nacho sur le terrain. Ça fait 3 matchs de suite, aucun but. Et hier, je peux te dire là, qu'il n'y a pas eu 56 000 chances de marquer pour l'Impact. Là. C'est assez drabe comme spectacle.
Jérémy, on aura la chance un peu plus tard d'entendre des propos de Thierry Henry. Mais écoute, c'est quand même la semaine prochaine le match de la Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, il va falloir trouver une étincelle assez rapidement. Sinon, ce ne sera pas facile,
ouais.
Ça.
Oui, non, tu as absolument raison. Je pense qu'aujourd'hui, on peut clairement se dire, surtout de la façon dont Saprissa joue, ils ont encore gagné hier 3-0 dans des matchs significatifs, que l'Impact rentre dans cette série-là vraiment le grand négligé. Boyan a beau être un bon joueur de soccer, bon distributeur, ça y prend un autre bon joueur à côté de lui. Les autres gars sont capables, oui, de marquer des buts. Là, Lapalainen a joué un petit peu hier, il revenait de blessure. Raitala aussi, même chose. Mais on n'a pas cette valeur sûre en attaque présentement pour nous aider, malheureusement. Et par contre, on pourrait retrouver ça demain soir. Ça, c'est pas impossible parce que, c'est-à-dire samedi soir. Parce que samedi soir, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire jouer plusieurs jeunes. On va faire jouer, entre autres, Jackson et Ballou qui n'ont pas joué dans le match d'hier. On nous a déjà confirmé du côté de Thierry Henry que c'est des joueurs qu'on va vouloir regarder. Donc, si jamais il y en a un des deux qui se démarque, c'est pas impossible qu'un des deux gars obtienne un départ au Costa Rica contre le club Saprissa. Parce que quand on comptabilise les matchs pré-saison de l'Impact, et si on inclut aussi le match intra-équipe, là, le genre de rouge contre blanc, comme on l'appellerait chez le Canadien, ben Ballou et Jackson, les deux Québécois, ont marqué 3 des 5 buts qu'on a marqués au camp d'entraînement. Il y a aussi une rumeur qui circule sur les médias sociaux ce soir. Il y aurait un attaquant du nom de Habib Habibou. Je n'invente pas ça, là, c'est vraiment ça. Habib Habibou, qui est un Africain de 1,92 m, qui jouait en Belgique jusqu'à tout récemment. Donc, c'est un gars que potentiellement Olivier Renard connaîtrait, qui, sur les médias sociaux, semble insinuer qu'il s'en vient avec l'Impact de Montréal sous peu. Donc, histoire à suivre, là, il n'y a pas de confirmation à ce niveau-là. On va essayer d'avoir plus de détails demain.
Bon, ben écoute, Jérémy, on vous souhaite une bonne suite de voyage, évidemment. Puis, peut-être mentionner aux gens, on va diffuser les matchs là, de la Ligue des champions de la CONCACAF.
Absolument. Dès la semaine prochaine, mercredi soir, en direct de San Jose. au Costa Rica, le match entre l'Impact et Deportivo Saprissa, le match retour aussi au Stade Olympique, et ensuite de ça, on enchaîne avec le début de la saison, et en espérant, en se croisant les doigts, que l'Impact puisse traverser cette première ronde de la Ligue des champions et qu'on puisse poursuivre l'aventure au mois de mars.
Merci beaucoup, Jérémy Filosa.
Salut!